RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Taureaux pendant les corridas, animaux des cirques, animaux en captivité dans les zoos, voilà des sujets qui reviennent régulièrement sur la table et qui font souvent polémique. Est-ce qu'on estime suffisamment les animaux? Comment sait-on que les dauphins, les lions, les éléphants et j'en passe sont plus malheureux lorsqu'ils sont en captivité? Et puis au-delà des combats qui ressemblent, pardonnez-moi de l'expression, à des corridas entre militants, on s'intéresse ce matin, dans Je pense donc j'agis, à la place de l'animal dans notre société. Et au vu des récentes actualités liées à la maltraitance animale, on parlera de ces associations qui agissent sur le territoire pour protéger les animaux domestiques et qui luttent contre les abandons. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages, comme chaque matin. Pensez-vous que l'animal doit être au service de l'homme? Et si je reprends l'exemple des zoos, des cirques ou des corridas, êtes-vous gêné par le spectacle, le divertissement autour des animaux? Et surtout, doit-on tout accepter au prétexte des traditions? Bonne question, vous avez la parole au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis, en compagnie de Madeleine Vatel. Bonjour Madeleine.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Mais oui, dès qu'on parle de corrida, de zoo et de cirque, ou pourquoi pas de montreur d'ours, de combat de coq ou de spectacle de dauphin, mais c'est vrai que le débat se crispe. Les animaux sont-ils un divertissement comme un autre? Eh bien, si on regarde de plus près, ce qui est questionné, c'est notre considération pour l'espèce animale. La place que nous lui donnons a évolué, la fonction, entre guillemets, que nous accordons aux animaux dit aussi quelque chose de l'homme et de la société. Alors aujourd'hui, il sera question de la relation toute particulière entre l'homme et l'animal. Faut-il se soucier de sa souffrance et comment la repérer? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur le bien-être animal ou au contraire, est-ce qu'on doit s'en préoccuper davantage? Bref, avant de s'embarquer dans des discussions parfois tendues sur nos compagnons de vie, il est peut-être intéressant de se demander ce qu'ils sont venus faire sur Terre et de quelle captivité nous avons à nous libérer nous-mêmes à leur égard.
Et on en discute avec nos quatre invités jusqu'à 10h ce matin, Madeleine.
Et oui, avec nous, Laurence Paoli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre « Zoo, un nouveau pacte avec la nature » et « Quand les animaux nous font du bien », enquête sur ces compagnons qui rendent nos vies meilleures aux éditions Buchet-Chastel. Et vous êtes également conseiller en communication pour la science et l'environnement spécialisé dans le lien à l'animal. Vous avez travaillé pendant très longtemps dans des zoos, on y reviendra. Avec nous également Georges Chapoutier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, philosophe, directeur de recherche émérite du CNRS et l'auteur du livre « Sauver l'homme » par l'animal, publié aux éditions Odile Jacob. Bienvenue aussi à Catherine Vial, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'Ancien Testament, responsable pédagogique d'un diplôme universitaire en études animales à l'Université catholique de Lille. Merci à Jean Duquesne qui a ouvert les studios ce matin. Et enfin bonjour à frère Franck Dubois.
Bonjour.
Vous êtes dominicain, docteur en théologie, auteur de « Pourquoi les vaches ressuscitent » aux éditions du Cerf. Vous nous direz si vous avez trouvé la réponse. Et vous enseignez à la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Merci à Nicolas Humbert qui vous accueille. Et on commence avec vous, Georges Chapoutier. On va parler pendant cette matinée des animaux. Vous nous direz d'ailleurs ce qu'est un animal. Vous travaillez depuis plusieurs dizaines d'années à les observer. Qu'est-ce qui, d'après vous, émerveille l'homme qui regarde un animal?
D'une part sa complexité, le fait que les animaux sont extrêmement complexes, une complexité qui dépasse un peu ce que l'homme peut imaginer aujourd'hui. Et puis le fait aussi que l'homme se retrouve dans l'animal, parce que nous sommes des animaux pas très particuliers, bien entendu, mais nous avons une origine animale aussi. Donc ce sont nos cousins à certains égards. Donc pour toutes ces raisons, je pense que l'homme doit s'intéresser aux animaux. Mais comme vous l'évoquez, on en parlera peut-être, il y a des animaux. C'est très très vaste les animaux. Et en général, quand on parle du respect de l'animal, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on pense beaucoup aux animaux vertébrés, c'est-à-dire ceux qui sont très proches de nous, le chat, le chien, les animaux dans les eaux, etc. On pense pas aux vers de terre, à l'éponge, etc., qui sont des animaux d'une toute autre nature.
Alors aujourd'hui, on parlera aussi des éponges. On leur rendra l'honneur qui doit leur être fait. Laurence Paoli, pour vous, qu'est-ce qui, d'après vous, émerveille l'homme qui regarde un animal? Vous avez travaillé pendant longtemps dans des zoos. Vous avez vu ces gens qui s'arrêtent, ces enfants qui sont fascinés? Pourquoi ?
Bah, c'est aussi une reconnexion avec la nature. Dans les parcs zoologiques sont souvent des endroits où on peut voir des animaux qu'on ne voit nulle part ailleurs. On a quand même tous un besoin... un élan vital vers la nature et un besoin de se réconciliation avec la nature. Et lorsque vous promenez dans un parc zoologique, vous êtes face effectivement à des espaces extraordinaires que vous regardez avec émerveillement, qui sont proches de vous et en même temps très lointaines, et qui vous projettent dans un univers un peu émerveillant de connexion avec la nature au sens large, on va dire. Vous avez par exemple la psychologie de la conservation qui travaille là-dessus. En fait, on sait maintenant que dans un univers naturel, en contact avec les éléments, avec les animaux, etc., on peut connaître des moments de grâce et de joie absolument incroyables où on se sent en osmose, on va dire, avec l'univers. Et cette, quand on vit ces moments-là, qui s'appellent des épiphanies de nature, pour tout vous dire, ou des moments unifiants, eh bien, on est derrière, on est changé durablement et on est beaucoup plus enclin à s'intéresser, on va dire, à la nature, aux animaux, au monde autour de nous et à se demander de quelle façon on peut agir pour préserver cet univers dont on fait partie.
Qu'est-ce qui se passe entre l'homme et l'animal ? Des épiphanies de nature, ça doit vous faire réagir, Franck Dubois ?
Des épiphanies, oui. En entendant vos invités, je pensais à un auteur comme Grégoire de Nyssa au IVe siècle, docteur de l'Église, qui s'émerveille, dans une tradition qui le précède déjà, qui nous vient de la philosophie stoïcienne, qui s'émerveille des animaux et qui admet sans problème qu'un certain nombre d'animaux ont des capacités plus grandes que nous. Il parle du loup avec ses dents, il parle de la tortue avec sa carapace, et il les prend comme exemple en disant on doit s'inspirer d'eux. Et d'ailleurs l'homme, dit-il, dans sa culture, s'est inspiré des animaux pour se fabriquer des maisons, pour se fabriquer des outils, pour se fabriquer des lances, pour chasser de façon plus efficace. Et cet émerveillement, Catherine Vielle nous en parlera peut-être, est déjà dans la Bible, puisque notamment dans la lettre aux Romains, on nous dit qu'en regardant les créatures, on peut remonter jusqu'au Créateur, et l'épiphanie, enfin l'émerveillement, est sans doute une condition pour aller à Dieu. Donc les animaux sont un chemin vers Dieu pour le croyant, et c'est sans doute pour ça, c'est certainement pour ça qu'il faut en prendre soin, parce qu'ils sont pour nous comme des signes.
Catherine Vielle, est-ce que l'émerveillement fait partie de l'Ancien Testament ? Est-ce qu'il y a une forme de fascination à l'égard de l'animal, ou pas tant que ça ?
Eh bien, oui, on la trouve dès le premier chapitre de la Genèse, donc dès la Bible s'ouvre là-dessus, en fait, puisque le premier chapitre de la Genèse est consacré à la création du monde par Dieu, et Dieu va créer donc les différentes créatures, dont les animaux, et à chaque fois, donc on a après chaque jour, on a ce recul de Dieu qui regarde ce qu'il a fait et qui dit Dieu vit que cela était bon. Et donc le sixième jour, quand il crée les animaux terrestres et les êtres humains, Dieu vit que cela était très bon. Et donc il crée une création harmonieuse où animaux, êtres humains vivent en paix, sont tous végétariens d'ailleurs à ce stade-là. Et donc oui, donc du coup on va trouver cet émerveillement. Et alors il traverse tout l'Ancien Testament, puisque à différents moments on va voir que les auteurs s'arrêtent, regardent la création et s'émerveillent, quoi. Et en effet, donc ça reprend ce que dit aussi le frère Franck Dubois, cette création qui renvoie au Créateur. Et alors, on a même certains passages dans les livres de sagesse où les animaux vont être cités en exemple pour les êtres humains. On va dire par exemple, regarde la fourmi, tout ce qu'elle est capable de faire. Regarde l'aigle, regarde tel animal. Et donc, on va trouver vraiment à plusieurs reprises donc cet émerveillement devant la création, devant les animaux, devant les êtres créés, dont les êtres humains sont responsables.
Alors on va... Oui, pardon, vous vouliez réagir, Laurence Paoli.
Oui, je voulais ajouter que la traduction scientifique de cet élan, en fait, s'appelle... Enfin, en tout cas, a été nommée la biophilie, c'est-à-dire le fameux un élan vital. Donc vous avez Teilhard de Chardin qui en a parlé le premier, puis ensuite Eric Fromm et un monsieur Edvard Olson qui a sorti un livre dessus et qui dit très clairement que l'homme a naturellement un élan vital, un élan vers la vie et vers tout ce qui vit autour de lui. Et c'est vraiment un concept, entre guillemets, philosophique et scientifique, et qui rejoint ce que disent vos autres invités. Voilà.
Alors on va faire un petit saut dans l'actualité, parce que il est beaucoup question des spectacles, des animaux dans les spectacles. Il y a eu un accord qui a été trouvé il y a un an par le Parlement et le Sénat sur la fin des animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums. L'idée, c'est de stopper l'exploitation commerciale de ces espèces sauvages. Interdiction, par exemple, d'acquérir et de participer à la reproduction des animaux dans les cirques d'ici 2023. Et puis, la détention des cétacés dans les delphinariums, elle sera interdite dans 4 ans. Donc, la question autour de ça, c'est en quoi la captivité pose question, Georges Chapoutier. Pourquoi la captivité interroge et perturbe?
Alors, le fait est, si vous voulez, que on peut exprimer ça comme le fait le philosophe Jean-Luc Barthélémy en termes de besoins. C'est-à-dire que un animal est un être complexe qui a des besoins physiques, biologiques, de nourriture, etc., d'espace, et des besoins psychologiques. Les animaux les plus évolués, tous les gens qui ont des chats et des chiens le savent bien, ont des besoins psychologiques. Donc, il faut pouvoir répondre à ces besoins. Et en général, je dis, il peut y avoir des exceptions, mais en général, la captivité ne répond pas à ces besoins. Alors, j'exclus, bien sûr, les animaux qui ont été domestiqués par l'homme, comme le chien et le chat, qui sont captifs d'une certaine manière, mais qui ont une interaction telle avec l'homme qu'ils y trouvent, en quelque sorte, réponse à leurs besoins, notamment affectifs, quand ça se passe bien. L'articulation entre un homme, un chat et un chien, quand elle est bonne, elle est merveilleuse pour les deux. En d'autres termes, dans ce cas particulier, la captivité, entre guillemets, ne pose pas de problème. Ça pose problème pour un animal qui n'est pas habitué à la captivité, qui n'est pas adapté et qui n'y trouve pas ses besoins. Et plus l'animal est en quelque sorte, évolué sur un plan intellectuel, plus c'est difficile. On parle beaucoup, par exemple, des grands singes. Les grands singes enfermés, sans possibilité d'avoir des systèmes pour s'amuser, pour manipuler, etc., ils s'ennuient considérablement. En d'autres termes, alors que par exemple, je pense que un cloporte ne s'ennuie pas de cette façon-là. En d'autres termes, pour certains animaux, la captivité ne pose pas de problème majeur. Je prends le cloporte comme un exemple extrême. Autant pour les grands animaux, comme les grands fauves ou les grands singes, ça pose des problèmes très graves.
La captivité, ça vous parle, Laurence Paoli?
Oh oui, ça me parle très beaucoup.
Ça pose question, ça vous a interpellé, vous avez quitté les zoos, mais est-ce qu'aujourd'hui vous regardez ça avec une autre perception?
Ah, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et j'ai beaucoup travaillé avec les parcs zoologiques, puisque j'ai collaboré avec eux une grande partie de ma carrière. Alors, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. La captivité, au tout départ, était simplement, on va dire, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, c'était simplement pour signifier que avoir des animaux sauvages, c'était pour signifier qu'on dominait la nature et qu'on était puissant. Ça a commencé à basculer à l'époque moderne, où on a commencé à s'intéresser, en fait, à la biologie et la physiologie des animaux. On s'est mis à les étudier. Au départ, on étudiait d'abord les plantes parce qu'on se soignait avec les plantes, puis on s'est mis à étudier les animaux parce qu'on les avait captifs et que les scientifiques se sont intéressés à eux. Et puis à l'époque contemporaine, on s'est rendu compte, enfin les zoos se sont rendus compte, puisqu'ils allaient prélever dans la nature, ils étaient aux premières loges pour se rendre compte qu'effectivement que le monde sauvage s'appauvrissait terriblement. Et à partir de là, ils se sont dit qu'ils avaient peut-être un rôle à jouer qui était différent que simplement montrer les animaux et les étudier sur place et puis servir de récréation au public. Ils se sont dit que peut-être qu'ils pouvaient agir pour sauver des espèces qui étaient en voie de disparition. Donc ils ont créé dans les années 30, enfin en 32 très exactement, le premier studbook pour le bison d'Europe, en se disant on va créer en fait un élevage de bison d'Europe en captivité, puisque le bison d'Europe a complètement disparu. Ces studbooks ont très bien fonctionné, se sont démultipliés et on a mis en place des tas de programmes d'élevage dans le monde entier pour les animaux captifs. Et puis vous avez les parcs zoologiques qui ensuite ont décidé qu'ils allaient ils ont été interpellés par l'UICN, qui est la plus grande association de conservation de la nature, qui leur a dit à un moment donné, effectivement, vous les parcs zoologiques, vous prélevez dans la nature, mais faites maintenant quelque chose pour la nature de façon plus vaste que simplement vos programmes d'élevage. Et ils ont sorti à un moment donné une bible, la bible des parcs zoologiques, où ils se sont donné les missions de conservation, sensibilisation et recherche. Et à partir de là, si vous voulez, les parcs zoologiques se sont mis à travailler de façon très claire sur la conservation, la recherche et la sensibilisation.
On est en quelle année ?
Alors ça c'est
à peu près dans les années, on est dans,
c'est arrivé dans les années 70-80, voilà, grosso modo. Et puis vous avez 70, ouais. Et puis vous avez ce qui s'est passé, vous avez l'Europe qui à un moment donné s'est dit on va s'intéresser aux parcs zoologiques aussi et on va tout simplement faire un un décret européen, enfin une loi européenne disant qu'il faut que les parcs zoologiques commencent à se policer et travaillent sur eux et fassent effectivement conservation, mission, conservation, recherche et sensibilisation. Et puis ça a été adapté en France ensuite avec une loi, la loi Zoo. Vous avez eu la directive européenne qui est sortie en fait en 99 et puis vous avez un arrêté Zoo qui a été fait en 2004 en France et qui a interprété de façon légale, on va dire, les missions des parcs zoologiques qui s'étaient données eux-mêmes au départ en disant officiellement en 2004, les parcs zoologiques ont officiellement maintenant et légalement des missions de conservation, sensibilisation et recherche. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on a reconnu leur rôle, en fait, dans la conservation de la nature. Et il faut savoir qu'en parallèle, effectivement, les parcs zoologiques se sont énormément organisés. Par exemple, vous avez une association européenne qui s'appelle l'EASA, qui existe depuis les années 80 et qui est chargée de policer et d'organiser tous les parcs européens et qui a mis en place des tas de critères, en fait, pour la captivité, des tas de critères.
Alors, on reviendra justement sur comment est organisée la captivité.
Oui.
Il y a Melchior, et puis après, on se poursuivra.
Je suis toujours là, Madeleine, ne vous inquiétez pas. Venez à l'antenne d'ailleurs, hein, participer à cette émission, parlez-nous des animaux. Pensez-vous que l'animal doit être au service de l'homme? Ça, c'est une vraie question. Et puis, si on reprend l'exemple hein, des zoos, des cirques, des corridas, est-ce que vous êtes gêné par le spectacle, le divertissement autour des animaux? Et surtout, est-ce qu'on doit tout accepter au prétexte des traditions? Vous venez à l'antenne au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, par mail à direct@rcf.fr ou vos témoignages dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. Melchior Gormand, Madeleine Vatel.
Avec nos quatre invités jusqu'à 10h, Laurence Paoli, Georges Chapoutier, Catherine Vial et Franck Dubois. Madeleine, on continue.
Oui, Georges Chapoutier, vous souhaitiez réagir sur la captivité.
Voilà, on parlait de la captivité, j'en profite pour parler de ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, les NAC. Autant les animaux de compagnie traditionnels qui ont été forgés par des milliers d'années de vie avec l'homme, comme le chat ou le chien, sont parfaitement adaptés à nous et c'est merveilleux, autant les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, c'est des animaux qui sont des animaux sauvages, qu'on flanque dans des foyers, qui sont pas du tout adaptés à leur gestion, et ça donne en général des catastrophes. Donc les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, il faut les laisser dans la jungle, tranquille.
Libérer les NAC.
Voilà, exactement.
Parce que justement, effectivement, quand on a un NAC chez soi, on ne sait pas forcément s'en occuper. Contrairement au parc zoologique, où on a vraiment tout le savoir pour s'occuper maintenant des animaux qu'on maintient en captivité.
Quelques exemples de ces
NAC,
animaux.
Oui, de NAC, oui.
Oh, ça peut être des serpents, ça peut être des lézards, ça peut être toutes sortes d'animaux comme
des
ça.
Des souris.
Les souris, c'est déjà un petit peu particulier. Parce
et
que
les hamsters.
Alors, les hamsters, les souris, etc., on peut dans certains cas les transformer en animaux de compagnie. Dans cette partie. C'est pas vraiment des NAC. Les NAC, c'est vraiment des animaux exotiques qui n'ont rien à faire dans les maisons. Mmh. En général, des reptiles, d'ailleurs.
D'accord. Alors, la captivité, du côté de la Bible, qu'est-ce que ça donne, Catherine Vial? Est-ce qu'on a des exemples d'animaux qui sont enfermés, muselés, dans l'Ancien Testament?
Alors, on ne se prononce pas tellement dans la Bible sur la captivité ou pas des animaux, mais ce qui peut nous guider dans notre réflexion, je dirais, c'est le fait que l'être humain est supposé avoir un grand respect, une grande responsabilité envers les animaux. En fait, on ne fait pas n'importe quoi avec les animaux dans la Bible, hein, puisque l'être humain est supposé exercer sa responsabilité sur la création à l'image de Dieu, donc pas en faisant n'importe quoi, avec grand respect. Et l'animal est même présenté comme un presque vis-à-vis dans le deuxième récit de création de l'être humain. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce quasi vis-à-vis. Et du coup, on voit dans la Bible qu'il y a des lois concernant notamment alors la manière de traiter les animaux domestiques. Alors ça concerne pas bien entendu les zoos puisque c'est des problématiques qui sont pas à la corrida etc. parce que c'est des problématiques qui sont pas de l'époque de la Bible évidemment hein, du Proche-Orient ancien. Mais en revanche par exemple il y a une obligation du repos des animaux. Les animaux font Shabbat comme les êtres humains. Donc on voit dans le commandement du Shabbat que tout le monde fait Shabbat donc tout le monde se repose du vendredi soir au samedi soir y compris donc la servante le domestique etc. et les animaux le bœuf là on précise que tous les animaux, même de base, sont supposés se reposer lors du Shabbat. Il y a une attention aussi aux animaux. Donc, par exemple, il y a une prescription dans la Torah de couvrir les citernes pour pas que les animaux domestiques risquent de tomber dedans. Quand un animal est en difficulté, on est supposé l'aider, même quand c'est celui de son ennemi. pour l'animal, justement, précisément. On ne peut pas sacrifier des animaux nouveau-nés, on ne peut pas frapper un animal à mort, on ne peut pas museler alors le bœuf quand il foule le grain. Ça, c'est aussi très... Enfin, ça montre une certaine attention, quand même, parce que le bœuf qui foule le grain, bah, il a quand même le droit d'en profiter un peu. Donc, on ne peut pas lui mettre une muselière. Donc, il y a quand même tout un respect qui entoure l'usage, je dirais, des animaux domestiques. Et alors, à côté... La Bible reconnaît qu'il y a des animaux qui ont été créés indépendamment des êtres humains, pas pour être avec les êtres humains, donc des animaux sauvages, et dont l'existence loue le Seigneur s'en réjouit, donc c'est dans les psaumes, dans différents passages, mais ces animaux-là ne servent à rien pour l'être humain, et c'est très bien. Aussi. Donc il y a aussi ces animaux-là. Il y a même des grands monstres marins comme Léviathan, Béhémoth, etc. Alors qui ont été créés simplement alors pour le plaisir du Seigneur. Par exemple, on parle dans le psaume 104 de Léviathan que le Seigneur a créé pour jouer avec lui dans la mer.
Donc alors, on a Franck Dubois. Voilà, est-ce que dans la théologie on parle du statut des animaux? Est-ce que à travers les différentes pensées de l'Église vous avez pu repérer des éléments qui nous disent justement ce statut de l'animal? Est-ce que l'homme est supérieur? Est-ce qu'on perçoit la fonction qu'il pourrait avoir avec l'homme?
On en parle certainement, hein. Et c'est intéressant ce qu'on venait de dire, parce que pour commencer avec le XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin fait partie de cette longue lignée de théologiens, depuis Augustin, depuis le IVe siècle, qui dit « les animaux n'ont pas d'âme ». Et ça, c'est un problème, parce que comme ils n'ont pas d'âme, selon cette théorie, ils ne ressentent pas la souffrance. Mais cependant, on ne peut pas faire n'importe quoi avec eux, parce que, nous dit saint Thomas, ce qu'on fait aux animaux va immanquablement se répercuter sur ce qu'on fait aux hommes. Et on doit les bien traiter, parce que maltraiter un animal, ça va entraîner de la maltraitance humaine. Je pense que c'est un sujet d'ailleurs tout à fait actuel, parce qu'on pourrait dire ça aujourd'hui, des études très sérieuses nous le montrent. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce soin qu'on prend aux animaux, qui est finalement, on l'a vu, assez récent, en fait, les théologiens, des hommes d'Église, ont été pionniers là-dedans, parce que la première société, la première SPA, qui a été fondée en Angleterre en 1824, la RSPCA, a été fondée par un prêtre anglican, Arthur Broom, qui se situe dans une lignée, une pensée théologique qui commence au XVIIIe siècle, qui fait grand cas de la souffrance animale. Ça commence au XVIIIe siècle parce qu'en Angleterre, c'est le début de la révolution industrielle, les animaux sont mis à lourde contribution dans le développement industriel, dans l'agriculture qui s'intensifie, mais aussi le développement des loisirs avec les animaux, et on se rend compte qu'en fait, contrairement à ce que une certaine tradition affirmait dans l'Église, les animaux sont capables de souffrance. Et on a des œuvres très intéressantes, par exemple un prêtre anglican qui s'appelle Humphrey Primat qui dit « Toute souffrance est une souffrance, qu'elle soit infligée à l'homme ou à la bête ». Et là, en fait, on va plus loin que ce que faisait l'Église traditionnellement avec saint Thomas en disant « faut pas faire souffrir les animaux parce qu'au fond, ça a des répercussions sur la façon dont on va traiter les hommes ». On finit par se souvenir de ce dont Catherine nous parlait à l'instant, que les animaux sont dotés d'une dignité propre, et qu'il ne faut pas en faire n'importe quoi, non seulement parce que finalement ça va nuire à l'homme, mais il ne faut pas en faire n'importe quoi parce qu'ils ont été créés par Dieu, et que les animaux sauvages nous rappellent qu'effectivement il y a des animaux qui, entre guillemets, ne servent à rien à l'homme, en tout cas pas directement, mais il faut quand même en avoir soin, parce qu'ils font partie de ces créatures qui, puisqu'elles sont créatures, sont dotées d'une dignité propre. Finalement, toucher à l'animal, c'est toucher à une créature, et donc c'est faire indirectement du mal à Dieu ou ne pas honorer Dieu.
Alors,
ce qui est intéressant, ce que je voulais dire, c'est que en fait, cette affaire est très très ancienne. La religion, très souvent, finalement, est un vecteur du meilleur et du pire, mais dans ce qui est du meilleur, parce que bien avant le christianisme, les premières grandes philosophies qui nous disent attention, ne pas maltraiter les animaux, c'est des courants philosophiques ou religieux qui tiennent à la métempsychose, donc à la migration de l'âme de l'homme à la bête et de la bête à l'homme. Et on nous disait à l'époque, l'orphisme, Pythagore, surtout, faut pas manger les animaux, faut pas leur faire de violence, ni même les plantes. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque que l'âme de votre grand-mère soit nichée dans la vache que vous allez abattre ou dans la fleur que vous allez manger. Et ça, c'est intéressant. Alors, le christianisme va évidemment combattre ces idées-là parce que le christianisme ne croit pas en la métempsychose. Mais on voit qu'il y a un vieux fond religieux humain qui essaie de trouver, de justifier des pratiques qui respectent l'animal. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que
Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Le christianisme, à mon avis, a des bons arguments pour nous dire « ne faites pas n'importe quoi aux animaux » pour aller au-delà de l'utilitarisme. Hein. Voilà, c'est pas parce que il faut pas respecter les animaux parce que c'est bon pour l'homme. Il faut respecter les animaux parce que voilà, parce que ils ont une dignité propre fondée pour les chrétiens par leur statut de créature.
Alors Georges Chapoutier, je vais pas vous faire réagir sur l'âme des animaux, mais sur leur conscience.
Une petite remarque sur ce que vient de dire Franck Dubois. Ce qu'il dit tout à fait juste. Ceci dit, la métempsychose, c'est pas simplement quelque chose d'ancien, préliminaire au christianisme. Je rappelle quand même qu'il y a tout un courant en Asie, hindouisme et tout ce qui est dérivé, qui croit dans la métempsychose et qui est très contemporain et qui a beaucoup d'influence aujourd'hui.
Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut définir ce qu'est la métempsychose? Parce que là, c'est un mot qui est un peu compliqué, je pense.
La métempsychose, c'est l'idée qu'après la mort, l'âme peut se réintégrer dans un corps animal, par exemple. C'est la migration des âmes, mais qui est encore très très présente dans les religions de l'extrême.
Aujourd'hui, c'est la réincarnation, c'est ça?
C'est la réincarnation, tout à fait. Mmh. Mais qui pas nécessairement chez l'homme. Dans la conception traditionnelle de l'hindouisme, l'âme a des avatars successifs et peut, si le sujet a été bon, il va monter dans la hiérarchie des êtres. S'il a été méchant, il va débaisser jusqu'à s'intégrer dans le nirvana à terme, si le cycle des réincarnations a été favorable. Enfin, mais je veux dire que c'est un problème encore actuel. C'est pas simplement un problème de base, de fondation des religions du livre. Alors, la question qui m'a été posée sur la conscience.
Oui.
Parce qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure du.
De la souffrance, ça viendra voilà. dans.
Oui, mais les choses sont liées. Oui. Parce que, si vous voulez, les animaux, on a tendance à parler tous, depuis l'instant, on en parlait ensemble là, on parlait des animaux évolués, finalement des chats, des chiens, des vertébrés, etc. Comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres animaux. Il y a des invertébrés. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de la conscience? Qu'est-ce qu'il en est de la souffrance? L'écrasante majorité des animaux, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, n'est pas conscient. En d'autres termes, il y a un phénomène qui s'appelle la nociception, qui fait que la plupart des animaux, quand il y a quelque chose qui est nocif à leur corps, sont capables de s'éloigner, de s'abstraire de ce danger, mais de façon inconsciente. La plupart des animaux, dans l'état actuel des connaissances, n'est pas conscient de ce qui pourrait être une douleur. On appelle la nociception.
C'est une forme de réflexe.
C'est une forme de réflexe. Alors il y a des animaux qui n'ont pas de nociception du tout. C'est-à-dire que on parlait des éponges tout à l'heure. Les éponges sont comme les plantes. Il n'y a pas de nerfs du tout. Et sur ce point particulier, les éponges sont des animaux qui se comportent comme des plantes. Mais l'écrasante majorité des animaux invertébrés a de la nociception, c'est-à-dire qu'ils sont capables de réagir à quelque chose qui peut porter atteinte à leur corps, mais de façon réflexe. Alors quelques animaux. Et les limites sont pas très claires aujourd'hui au point de vue scientifique. Quelques animaux ont des phénomènes de conscience, c'est-à-dire qu'ils sont capables, eux, de savoir ce qui leur arrive, d'être conscients de leur anticipation. Et ça donne des phénomènes de douleur ou de souffrance, etc., qui sont évidemment très évidents pour qui connaît les animaux chez les chats et les chiens, contrairement à ce qu'avaient pensé Descartes et quelques autres. Ça ne fait plus de doute maintenant chez les vertébrés. On pense qu'il y en a de façon très claire aussi chez les pieuvres, chez des mollusques tout à fait évolués. Et puis la question est en discussion pour certains animaux, comme par exemple les crustacés et décapodes. Est-ce qu'il y a des phénomènes qui... Il est probable que la conscience émerge par paliers. En d'autres termes, que la conscience, par exemple, s'il y en a une d'un crustacé décapodé, c'est pas la nôtre. Mais donc, il y a des phénomènes peut-être de préconscience ou de protoconscience chez ces animaux. En tout cas, la conscience, au sens où nous l'entendons, nous, elle est très claire chez les animaux vertébrés. Et je dis ça, non seulement les mammifères, les oiseaux, mais même les poissons, par exemple. Et puis, chez les fameuses pieuvres. Donc, et ça apporte quelque chose à la nociception, parce que ça donne des phénomènes qui sont la douleur, ou la souffrance consciente de ce qui vous arrive.
Allez, 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr. Vos témoignages dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis. Voici Vianney et Ed Sheeran.
C'est l'heure où les videurs deviennent gentils, même avec les gens qui font peur et sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte c'est moi, t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser mes pensées le passé. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. Call on me, brother. Over every high, every
low. They will come, then they go. To feel alive, you gotta take the blows, you know. Call on me, please, brother. It is the nights when I'm drunk that it hits me most. Feels like it opens up the door I was keeping closed. It comes in waves and then it settles. Say it will end, but I know it won't. Well, I've been in a right mess, God, yes, since you left me here alone. Every time your name gets brought up, I get caught with the tears that will overflow. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. J'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. J'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi.
Vianney et Ed Sheeran sur RCF. Call on me.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Madeleine Vatel.
Nous parlons des animaux ce matin dans Je pense donc j'agis avec nos quatre invités, Laurence Paoli, Georges Chapoutier, Catherine Vial et Franck Dubois. Et puis Toufik qui est avec nous, 04 72 38 20 23. Bonjour Toufik.
Bonjour Melchior. Encore une fois, bravo pour ces émissions qui sont des sujets très intéressants, qui sont surtout d'actualité, hein, donc, notamment le sujet des cirques, le sujet des zoos, etc. Donc moi je suis quelqu'un qui est pas pour l'adoption des animaux, surtout dans des endroits fermés, notamment les appartements ou les cages, donc tout ça pour le plaisir humain. Malgré que tout à l'heure votre intervenant l'a dit, si même on leur apporte l'affection dont ils ont besoin, certes, oui, mais après j'ai un exemple de quelqu'un que je connais qui a un labrador, elle habite dans un appartement et quand elle vient au travail, elle le met dans une cage. Toute la journée, pour moi, ça ne veut pas dire aimer un animal. C'est plus de la torture, c'est une prison. Voilà, donc pareil. Donc je suis pas du tout d'accord pour les animaux dans les cirques. Donc j'ai déjà manifesté dans plusieurs événements là, surtout. Moi, j'habite à Lyon, donc au parc de la Tête d'Or avec certaines associations. Pareil, ils parlent de mettre des animaux en captivité, par exemple, pour les protéger, par exemple, certaines espèces menacées. On sait que c'est pas vrai. Pour certaines, peut-être oui, mais pas pour les autres. Et voilà, donc, juste pour donner mon avis sur le sujet. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette émission et pour la qualité de vos programmes.
Merci beaucoup.
Bonne journée, Melchior, et à vos invités.
Merci beaucoup, Toufik, d'avoir été avec nous au 04 72 38 20 23. C'est intéressant, Georges Chapoutier, quand Toufik nous dit notre amour de l'animal est en contradiction avec le fait de les enfermer, par exemple, quand on va travailler.
Alors, je pense qu'il ne faut pas effectivement les enfermer comme ça, bien entendu. Mmh. Il faut trouver une solution. Dans la relation entre un homme et un chien, ou un homme et un chat, bien sûr, il y a une une bonne relation à trouver, effectivement. Il y a des excès à ne pas. Il a raison. L'amour, il doit être des deux côtés, effectivement. L'homme doit chercher à voir ce qui rend son animal le plus heureux possible, bien entendu.
Alors, dans ce que disait Toufik, il y a aussi la question du cirque. Est-ce que le fait de dompter, le fait de dresser un animal, ça le fait progresser ou, au contraire, ça lui retire des capacités, ça l'enferme, ça le contraint à être ce qu'il n'est pas? Qu'est-ce que vous diriez, Laurence Paoli?
Alors, les cirques, c'est quelque chose de très particulier. Alors, il faut faire un distinguo. Les gens des cirques, contrairement à ce qu'on pense, aiment leurs animaux. Ils les aiment profondément et ils s'en occupent à leur façon très bien. Mais ils s'en occupent pas comme l'animal le mérite. C'est-à-dire qu'effectivement, les conditions d'hébergement des animaux sauvages dans les cirques ne sont pas bonnes. Ils sont dans des cages, ils sont transbahutés, ça ne fonctionne pas. Et puis, comme vous dites, ils sont dressés, ils sont domptés, et ça n'est pas possible. Donc, effectivement, les animaux dans les cirques sont en général très aimés, mais mal aimés par rapport à leur physiologie, à leurs besoins primaires, à leurs besoins sociaux, à leur façon de vivre normale.
Pourquoi vous dites que ça n'est pas possible de dompter, de dresser?
Ah, si, c'est possible. Ah, si. Quand je dis ça n'est pas possible, à mes yeux, si vous voulez, ça n'est pas quelque chose de louable ou quelque chose qu'il faut continuer. De toute façon, la loi qui est sortie dernièrement va mettre un frein à tout ça. Si, c'est tout à fait possible de dompter un animal. Vous le domptez, j'imagine, par la force ou par le renforcement positif. Je ne sais pas quelles sont les méthodes utilisées dans les cirques, ça dépend des cirques. Mais en tout cas, vous lui faites faire des choses qu'il ne fait pas dans la nature, et ça n'est pas bien. Et uniquement, effectivement, pour nous amuser ou nous distraire, ça n'a pas une vocation pour moi honorable. Et je ne parle pas, encore une fois, de l'amour que ces gens-là portent à leurs animaux, qui est vraiment réel. Dans les parcs zoologiques, on n'est pas du tout sur ce schéma-là. Dans les parcs zoologiques, vous êtes sur maintenant de la conservation. On est bien d'accord que les parcs zoologiques, au départ, étaient faits pour la distraction des gens et que les besoins des animaux étaient complètement niés, voire méconnus. On a énormément progressé, comme le dit Georges Chaputier, dans notre connaissance du monde animal et des besoins des animaux. On sait maintenant qu'on est sur une disparition massive, on va dire, des espèces et des milieux. Les parcs zoologiques ont vraiment vocation maintenant à, contrairement à ce que dit Toufik, et je comprends qu'il n'aime pas l'enfermement, parce que c'est vraiment le point sur lequel on peut être d'accord. On peut se dire que la fin ne justifie pas les moyens et que l'enfermement est un moyen qu'on n'accepte pas. Mais les parcs zoologiques maintenant ont vocation à sauver des espèces. Ils en sauvent énormément, ils en réintroduisent énormément, et ils mettent beaucoup d'argent en fait dans la conservation des écosystèmes sur place, parce que c'est souvent un reproche qu'on leur fait. On leur dit, mais pourquoi vous extrayez les animaux et vous ne protégez pas les écosystèmes? Alors, ils protègent les écosystèmes. Faut-il encore avoir un écosystème protégé pour pouvoir réintroduire une espèce? Parce que si vous la réintroduisez dans des conditions où elle a été détruite au préalable, sans avoir modifié les pressions sur l'écosystème, eh bien vos animaux réintroduits vont disparaître de la même façon. Dites-moi, excusez-moi, Melchior.
Non, il n'y a pas de problème, mais vous êtes bavarde, mais c'est très intéressant. Mais alors, on a Daniel aussi qui nous a laissé un message et qui nous dit « Je crois que les dauphins évoluent dans de grands bassins, les eaux occupent une superficie énorme, on n'est plus autant des cages de quelques mètres carrés. » Mais elle nous dit aussi, Daniel, par contre, bien sûr, un spectacle de tigre qui passe à travers un cercle de feu, non, c'est horrible. Et puis le spectacle avec les animaux me gêne quand je pense qu'il y a douleur. C'est pour ça que je vous ai coupé la parole, je me suis permis, Paoli, mais parce que ça vient compléter ce que vous dites à l'instant, hein.
Mais sauf qu'il y a pas, il y a confusion. En fait, il y a pu avoir douleur, en tout cas dans les spectacles et peut-être dans les cirques, je dis bien peut-être, et dans les parcs zoologiques, ça c'est sûr, il y a très très longtemps, mais on n'est plus du tout là-dessus. Par exemple, les spectacles dans les zoos, on commence à être complètement bannis et on parle plutôt de training médical. En fait, vous devez pouvoir manipuler vos animaux si vous voulez les soigner sans les stresser, sans les anesthésier à chaque fois. Donc, vous les habituez à être manipuler la trompe des éléphants, l'oreille, la patte, faire sortir l'otarie pour lui faire une échographie, lui apprendre à se mettre sur le dos. Vous pouvez faire ça devant le public, mais c'est toujours à vocation médicale. Ce sont des renforcements de comportement, alors positifs, c'est-à-dire qu'on récompense l'animal, mais il n'est évidemment jamais sanctionné ou terrorisé. Et ce sont des comportements qu'il peut faire dans la nature, ce sont des mouvements qu'il peut faire naturellement. Et effectivement, faire passer un tigre dans un cercle de feu, c'est à proscrire à mes yeux et à bannir complètement. Maintenant, on est bien loin de tout ça dans les parcs zoologiques. Alors après, dans les parcs zoologiques, on peut avoir encore des limites où les animaux ne sont pas hébergés exactement comme il faudrait qu'il le soit, manque d'espace ou d'enrichissement du milieu. Les parcs, entre autres avec des institutions comme l'EASA, dont je parlais, qui est un consortium européen de parcs zoologiques et qui régule la profession, ou la OASA qui fait ça au niveau mondial, vous avez maintenant une pression énorme en interne et des réglementations de plus en plus strictes sur l'hébergement des animaux et sur ce qu'on en fait et la façon dont on doit les traiter.
Alors, la question qui sous-tend tout ça, c'est donc la considération qu'on a pour l'animal. Frère Franck Dubois, je vous interpelle là-dessus parce qu'au final, l'Église, est-ce qu'elle dit que l'animal a une âme? aujourd'hui. L'église de Merci, c'est quoi la position?
Change de point de vue sur la question et ça fait partie, c'est intéressant, en théologie, des évolutions de la pensée de l'Église qui ont été déclenchées par le progrès des sciences profanes. L'éthologie, la biologie, tout ça a fait, Dieu merci,
l'éthologie,
changer
c'est la science
le point de vue de l'Église.
L'éthologie, c'est la science du comportement de l'animal. Pardon. Voilà, l'éthologie, c'est la science du comportement de l'animal.
Avec vous dans voilà. Le studio, j'en suis pas du tout. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur ces progrès-là, et comme on le rappelait tout à l'heure, que le grand singe, que d'autres animaux sont capables de sentience, on dit parfois en tout cas de souffrance, de ressentir des émotions, ça a fait changer le point de vue de l'Église. Je rappelle juste qu'au XVIe siècle, le pape Pie V a pris un décret contre la corrida, je le dis... pour montrer qu'encore au XVIe siècle, s'il l'a fait, c'était parce que la corrida, en fait, c'était pas pour le bien des pauvres taureaux qui se faisaient massacrer dans la corrida, mais encore une fois, pour éviter le scandale que ça pouvait produire chez les fidèles. Parce que voir un spectacle dégradant pouvait atteindre les mœurs des hommes et des femmes qui le regardaient. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. J'en veux pour preuve Laudato aussi, hein, la grande encyclique du pape François sur ces questions d'écologie, où il nous dit bien... que tout animal, et il ne va pas faire de distinction qui, comme vous le rappelez, nos invités sont très difficiles à dire, tout animal est doué d'une dignité en vertu de son statut de créature. Et je rajouterai, parce que j'écris un petit bouquin là-dessus, et qu'en fait, ce n'est pas du tout anecdotique, en vertu quoi, de sa destinée finale, de sa finalité qui est finalement de vivre avec Dieu. Éternellement. Bon, c'est la question compliquée et assez rigolote à traiter. Est-ce que les animaux ressuscitent? Ça paraît comme ça un peu anecdotique, mais en fait pas du tout, parce qu'en saint Thomas le dit au XIIIe siècle, on peut aimer de charité une créature à partir du moment où elle peut jouir de la gloire, c'est-à-dire à partir de on aime de charité, c'est-à-dire on aime d'un vrai amour. On parlait tout de suite de l'amour des animaux. Saint Thomas dit on peut aimer de charité gratuitement une créature à condition que cette créature participe à la gloire de Dieu, c'est-à-dire ressuscite. Et à partir du moment où l'Église, pendant très longtemps, a dit les animaux n'ont pas d'âme, donc l'âme, c'est le principe de la résurrection, donc ressuscite pas, on en avait une vision très utilitariste. À partir du moment où on dit, en fait, les animaux sont capables de souffrance, donc peut-être qu'ils ont quand même une âme plus similaire à la nôtre, et donc peut-être qu'ils ont un accès certain au ciel, alors ça leur donne une dignité propre qui leur vient pas seulement, vous voyez, de leur statut de créature, mais de leur avenir, de leur destinée. Et ça me semble intéressant, parce que si on dit que tous les animaux ont une destinée éternelle, ça veut pas dire chacun au même rang, ça veut dire sans doute selon une certaine hiérarchie. L'homme reste dans la vision chrétienne au sommet, mais au sommet dans la vision chrétienne, ça veut pas dire dominateur, au sommet ça veut dire celui qui sert, hein, comme Jésus au pied de ses disciples. Donc même si l'homme ressuscite au sommet et que les créatures ont part à cette résurrection, en fait, le fait qu'il y ait une destinée éternelle de l'éponge, du criquet, de la vache, du dauphin et du grand singe, doit forcer notre respect. Donc,
rapidement.
Simplement, Laudato aussi nous dit, c'est quand même le pape qui l'écrit, c'est un document qui a une grande importance dans le magistère de l'Église. Oui, aujourd'hui, on doit respect aux créatures, pas à cause de l'utilité qu'elles nous apportent, mais à cause de la dignité qui leur vient, et de leur statut de créature, et de leur statut d'animal ayant une vocation éternelle.
Georges Chapoutier.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce propos. Un point sur lequel Franck Dubois vient d'insister, et qui est censé, c'est la notion de hiérarchie quand même. On l'a évoqué tout à l'heure quand on a parlé de la conscience, qui n'est pas la même chez tous les animaux, etc. Il y a quand même une hiérarchie dans l'accession à la conscience, donc éventuellement à l'âme. Et le terme qui a été mentionné par Franck Dubois, c'est le terme de sentience, qui est un terme d'origine anglo-saxonne, mais qu'on utilise de plus en plus pour dire justement la sentience, c'est l'addition de la nociception, la capacité de sentir un élément négatif du corps, et puis la fameuse conscience. En d'autres termes, sentience, c'est nociception plus conscience. Et effectivement, les animaux qui s'intéressent le plus, ceux qui sont les plus proches de nous, les plus élevés au niveau spirituel, ce sont les animaux sentients.
Edith nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Edith.
Oui, bonjour à tous. Oui, je voulais simplement dire, moi j'ai un très grand respect pour les animaux. Je pense que ce sont des créatures de Dieu, bien entendu, mais quand même, l'homme a été créé à l'image de Dieu, contrairement aux animaux, et l'Esprit-Saint a été insufflé dans l'homme, et non pas dans les animaux. Donc il faut quand même bien pas le mettre sur la même image. Je trouve ça assez désolant de mettre l'homme et l'animal...
Sur le même plan, oui, vous voulez dire.
Voilà, bah oui, c'est totalement différent, bien qu'on doit avoir une grande... Comme la nature et les animaux, on doit les respecter, ça je suis tout à fait d'accord. Quant à la souffrance, là aussi c'est difficile parce que, bon, on parle des corridors, des taureaux, je suis pas du tout une adepte de ce genre de spectacle, mais quand même, la souffrance est la même, par exemple, pour les millions de moutons qui sont égorgés chaque année pour fournir les boucheries halal. Ou, voilà, la souffrance est la même pour tous les animaux. Je vois pas pourquoi on différencie encore la souffrance pour certains. Et, voilà, c'est assez difficile de trancher dans ce domaine-là.
Mais vous faites bien... Vous faites bien de nous appeler, Edith. Ça nous permet d'en parler avec nos invités. Merci beaucoup pour ce témoignage dont je pense, donc j'agis. Alors, plusieurs choses intéressantes. Je commence avec vous, Catherine Vial. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une hiérarchie, finalement, entre les animaux et les humains? Est-ce qu'on est tous des animaux? Ou alors, comme l'a dit Edith, voilà, on peut, c'est impossible de mettre l'homme et l'animal sur le même plan.
Ben, je dirais oui et non. Parce que d'abord, quand on regarde en hébreu biblique, donc qui est la langue dans laquelle l'Ancien Testament a été écrit et dans laquelle les récits de création ont été écrits, il n'y a pas de mot spécifique pour dire les animaux. Donc c'est nefesh raya. Nefesh raya, c'est l'être vivant. Et l'être humain, c'est aussi un nefesh raya. Donc c'est aussi un être vivant. Comme les animaux, comme tout, l'éponge. Alors la Bible ne parle pas de l'éponge, mais enfin, comme les oiseaux, les animaux aquatiques et les animaux de domestiques, etc. Tout ça est compris dans la catégorie nefesh raya, être vivant. Donc il n'y a pas vraiment de distinction de ce point de vue-là. En revanche, quand même, quand on regarde comment les animaux sont créés et après comment ils sont traités dans l'arche de Noé, etc., il y a quand même des catégories. Et donc il y a notamment, alors, trois catégories quand même. Il y a les animaux célestes, les animaux marins et les animaux terrestres. Et c'est pas pareil puisque les animaux terrestres, ils sont créés le même jour que l'être humain. Le 16e jour, ils ont quand même un statut un peu différent. Ils sont plus proches de l'être humain. On le reconnaît par rapport à ça. Les animaux aquatiques sont plus éloignés. Les animaux aquatiques, bon, on voit que par exemple, ben, ils sont pas dans l'arche de Noé au moment du déluge. Bon, en même temps, c'est normal. Il y a aussi une logique. Mais enfin, quand même. Et les animaux aquatiques sont pas non plus offerts en sacrifice à Dieu. Il y a pas, on peut manger les poissons, mais on les offre pas en sacrifice. Ouais. Donc, il y a quand même une hiérarchie au niveau de la proximité. Et alors, seul l'être humain, quand même, ça il faut le dire, seul l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme le rappelait l'auditrice, à juste titre. Et seul l'être humain reçoit la gérance de la création qu'il doit exercer à l'image de Dieu. Donc il y a quand même une responsabilité particulière de l'être humain sur la création qui découle quand même d'un statut particulier qu'il a. Donc c'est un effet shraya, mais pas comme les autres quand même, avec aussi quelque chose en plus, je dirais, mais alors qui est pas tant à penser en termes de pouvoir, mais plutôt en termes de responsabilité en réalité, hein, puisque l'être humain doit veiller sur la création, il est comme le lieutenant de Dieu en fait, donc un peu à la place de Dieu, hein. Il doit faire attention à cette création. Donc il a quand même ce statut un peu particulier. Et alors dans le deuxième récit de création, ça va se manifester dans le fait que l'être humain et les animaux sont créés à partir de l'argile, de l'humus, de la terre, tous les deux, donc même substance, mais seul l'être humain reçoit le souffle de Dieu et pas l'animal. Voilà.
Georges Chapoutier voulait réagir.
Je voudrais dire la même chose de façon plus scientifique et laïque, si j'ose dire.
Allez-y.
L'homme est un animal sur un plan biologique. Les singes respirent comme nous, se nourrissent comme nous, excrètent comme nous, ont des petits comme nous, souffrent comme nous, ont des maladies transmissibles comme nous, etc., etc. Sur le plan biologique, nous sommes des animaux. Mais sur un plan culturel, l'homme, du fait de son super cerveau en particulier, a des aptitudes qu'aucun autre animal n'a. Lui seul est capable d'avoir une technologie et une science qui lui permet non seulement d'aller sur d'autres planètes, mais de connaître largement l'univers qui l'entoure. Et du coup, ça lui donne une connaissance très approfondie de l'univers dans lequel il vit, une capacité d'en être responsable, d'avoir un sens moral. L'animal, il n'est pas responsable de son environnement. Il n'a pas de responsabilité morale. Et ça, c'est une grosse différence entre l'homme, excessivement intelligent, cultivé, etc., qui est donc cette responsabilité morale que les autres êtres vivants n'ont pas. Donc il y a une différence, il n'y a pas de différence au plan biologique, on est des animaux, mais il y a une différence sur le plan culturel, intellectuel et moral.
Laurence Paoli.
Moi, je voulais juste réagir sur la violence. Alors, la notion de respect, elle est dite de chaque côté, religieux et laïque. On en arrive tous à la même conclusion. Il faut respecter l'univers autour de nous et on est responsable en grande partie de la bonne santé de la terre et des animaux qui sont dessus. Mais je voudrais revenir sur la notion de violence dont parlait la dame avec la corrida. La corrida, par exemple, c'est quand même un spectacle violent. Je crois que Laurent Beck-Chanclang, qui est un scientifique, vient de sortir en fait un article sur l'impact que pouvait avoir la corrida sur les enfants qui la regardaient.
Ah, mais on rejoint la réflexion du frère Franck Dubois.
Non, mais tout à fait, et c'est très intéressant. Et surtout, il faut savoir maintenant que, alors là, je vais être très basique, hein, que au niveau social, actuellement, chez les travailleurs sociaux, on sait que qui va battre son chien, torturer son chat, en général, va se défouler sur sa femme et ses enfants. Et il y a des études énormes qui sont sorties là-dessus. Il y a une corrélation évidente. Et par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, on a demandé aux travailleurs sociaux de regarder très clairement le marqueur animal de compagnie et l'état de l'animal de compagnie, parce que parfois, la famille qu'on va voir n'ose pas dire parce qu'elle a peur. Si l'animal de compagnie a l'air effrayé, agressif, trop maigre, pas bien, etc., c'est un marqueur très clair qui signifie qu'il y a un problème sous-jacent. Et on va même plus loin maintenant, on conseille d'extraire l'animal avec les enfants, si c'est possible, parce que très souvent, c'est le recours de l'enfant, c'est le chien, le chat qui va le consoler et qui va subir les mêmes violences dans la famille que lui. Donc ça va être son compagnon et ça va être son seul recours. Et l'enfant ne va pas oser parler s'il laisse cet animal derrière lui parce qu'il sait que son bourreau, leur bourreau commun, va se défouler sur lui. Donc, la notion animal de compagnie et la notion de corrélation de violence, elle est très, très importante. Mmh. Et maintenant, on travaille de plus en plus là-dessus.
Frère Franck Dubois, vous souhaitiez aussi réagir peut-être sur la responsabilité ou sur les êtres vivants. Je ne sais plus à quel moment vous souhaitiez intervenir.
Un petit mot, simplement, c'est sur cette question de sentience qui est importante. C'est-à-dire qu'il faut juste faire attention à ceci. C'est-à-dire que si le marqueur, c'est que la sentience, faut faire attention de se dire alors les hommes et les femmes porteurs de grands handicaps ou les petits enfants à peine nés ou dans le sein de leur mère ne sont pas doués de la même sentience, en tout cas, ou de les mêmes capacités cognitives, disons, que le grand singe, etc. Ce que je veux dire, c'est que l'Église, en tout cas, et c'est pas la seule, dit l'homme en tant qu'homme est doué évidemment d'une dignité absolument propre, qui bien sûr a à voir avec ses capacités cognitives et culturelles, comme on le rappelait. Mais en soi, même un homme qui n'en est pas capable, parce qu'il aurait perdu des moyens ou ne les aurait jamais eus, parce qu'il fait partie de l'espèce humaine, alors on lui doit le respect. Parce que sinon, on commence à avoir des raisonnements tordus en faisant passer la dignité de certains animaux qui ont des capacités supérieures à l'homme avant les hommes. Et ça, faut faire très attention. Et l'Église, du coup, tient à ce qu'on appelle la nature, la question de la nature, c'est-à-dire un homme, une femme, à partir du moment où c'est un homme ou une femme, indépendamment de ses capacités, est doté de cette dignité. Et bien sûr, c'est pour ça que la notion de hiérarchie, qu'on aime ou qu'on l'aime pas, me semble très importante et à ne pas perdre de vue. Mais encore une fois, j'insiste, j'ai déjà dit, dans la perspective chrétienne en tout cas, celui qui, et Catherine l'a dit à sa manière, celui qui est au-dessus, il n'est pas là pour dominer les autres, il est là parce qu'il est responsable des autres, il est là pour servir les autres. Donc dire que l'homme est au-dessus des autres animaux, moi ça me pose pas de problème, à partir du moment où ça lui donne une responsabilité supérieure. Et effectivement, comme disait Monsieur Chapoutier aussi tout à l'heure, il ne faut pas demander à la vache d'être responsable de son pré. Il ne faut pas demander au grand singe d'être responsable de la préservation de son environnement. Non, ça, c'est l'homme. Mais donc, avec la responsabilité, vient un certain pouvoir. Il faut l'assumer.
D'autant que l'homme a une part animale. Ça, c'est une question qui vous a intéressé, Georges Chapoutier. Mais vous souhaitiez réagir.
Oui, je souhaitais réagir. Abonder dans ce sens-là, dans le sens, encore une fois, plus laïque, si j'ose dire. Bien entendu, il y a une hiérarchie. Mais effectivement, il ne faut pas du tout menacer l'homme, quel qu'il soit. En d'autres termes, je vais dire très simple, je suis très favorable aux droits des animaux, mais il ne faut pas que les droits des animaux aillent à l'encontre, en aucun cas, des droits de l'homme. Ça, c'est un point très important, sur lequel Franck Dubois a raison d'insister. Si on commence à dire, ah oui, mais il y a certains singes qui sont plus intelligents que les nouveau-nés, là, on met la main dans quelque chose d'extrêmement dangereux.
Et je réagis aussi, effectivement, on est bien d'accord, il y a des discours très extrêmes, les animalistes les plus extrêmes, qui vont effectivement sur l'égalité absolue de l'homme avec l'animal. Et effectivement, un animal qui a plus de capacités qu'un humain déficient ou défaillant a plus de droits. Et ça, c'est catastrophique. Et on est là vraiment sur un anti-humanisme qui fait très peur et qui est très angoissant et qui est une dérive vraiment à souligner et qu'il faut absolument pas alimenter ni valider.
Alors, sur l'homme qui a une part animale, peut-être ce sera le mot de la fin, Georges Chapoutier. Comment est-ce que l'animal rend l'homme meilleur? Parce qu'il y a ça aussi.
D'abord parce que l'homme a une part animale, il se reconnaît dans beaucoup d'animaux, notamment par contre dans les animaux de compagnie. Ceux qui ont des chats ou des chiens qui vivent en osmose avec eux se reconnaissent beaucoup en eux. Et donc, c'est un peu un miroir de nous-mêmes. Mm-hmm. Donc, par ce biais-là, l'homme est un animal social, il fait aussi société avec des animaux, et le fait de faire société des animaux peut l'aider aussi à s'améliorer.
Peut le rendre plus juste, parce qu'on dit souvent c'est le côté bestial. En réalité, l'animal, parfois, est...
Oui, tout à fait.
Juste
le terme bestial est un mauvais terme. C'est-à-dire que l'homme a tendance à déjuger tout ce qui lui plaît pas. Donc, bestial, c'est pas bien. Humain, c'est merveilleux. Je rappelle quand même que Pol Pot et Hitler étaient humains.
Dans le vocabulaire, oui, tout à fait. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour cette réflexion autour des animaux. Tous les quatre, oui, bien sûr, tous les quatre. D'ailleurs, je vais les redonner pour la peine. Merci Laurence Paoli, vous êtes l'auteur de Zoo, un nouveau pacte avec la nature. Et quand les animaux nous font du bien aux éditions Buchet-Chastel, merci aussi Georges Chapoutier, vous êtes biologiste, philosophe, directeur de recherche émérite du CNRS et puis auteur du livre « Sauver l'homme par l'animal » aux éditions Odile Jacob. C'est un thème, le salut de l'homme par l'animal, qui rejoint aussi le frère Franck Dubois sur le salut de l'animal. Dominique, un docteur en théologie, auteur de « Pourquoi les vaches ressuscitent » aux éditions du CERF. Vous êtes enseignant à la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Et puis Catherine Vial, professeure d'Ancien Testament, responsable pédagogique d'un diplôme universitaire en études animales qui va ouvrir à l'Université catholique de Lille. Preuve que c'est dans l'air du temps.
Merci beaucoup Madeleine Vatel. Dans un instant, puisqu'on les aime les animaux, on va parler de l'amour qu'on a pour les animaux et puis surtout on va les protéger avec nos invités. À tout de suite.